des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
T'es avec nous pour parler de politique étrangère. Loïc, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Oui, boy, ça dégénère en Israël.
Mais oui, je suis obligé de te parler d'Israël encore parce que ça va vraiment très mal. Il y a eu des tirs de roquettes à partir de la bande de Gaza sur les aéroports israéliens. Tous les avions sont cloués au sol. Le système de défense israélien peut intercepter jusqu'à 90% des roquettes, mais il y en a bien entendu quand même qui sont tombées sur Israël. Et inversement, Israël a continué à bombarder la bande de Gaza et eux, ils n'ont aucun moyen d'intercepter les missiles et les bombes qui leur sont tirées dessus. Alors le bilan est terrible. Du côté palestinien, il y a 83 morts et 487 blessés au moins. Et du côté israélien, on compte 7 morts. Donc la situation est encore plus difficile, je te dirais, dans les territoires palestiniens parce que il y a la pandémie de Covid et les Palestiniens sont mal vaccinés. Et puis il y a des pénuries de toutes sortes. Alors les hôpitaux débordent. C'est pas très drôle. Et puis en plus, comme si c'était pas suffisant, il y a eu des manifestations, des émeutes, devrait-on dire, la nuit dernière. La télévision israélienne a montré des foules de fanatiques israéliens qui attaquaient des citoyens musulmans et qui vivent en Israël, c'était pas beau à voir. Il y a aussi des musulmans qui ont attaqué des Israéliens, mais c'était surtout des Israéliens qui ont attaqué des magasins arabes, des gens qui étaient sur la rue. Alors, ça a donné lieu à des centaines d'arrestations. Et Benjamin Netanyahou a été obligé de déclarer qu'Israël était attaqué sur deux fronts, c'est-à-dire qu'il parlait du front contre le Hamas, qui est cette bande de terroristes islamistes qui ont pris le pouvoir dans la bande de Gaza, et le front des extrémistes juifs et arabes qui se lancent dans une espèce de début de guerre civile en Israël même. Donc ça va vraiment, vraiment très mal en Israël. Ouais. Alors, les dirigeants, Mahmoud Abbas a parlé à Anthony Blinken, puis il a demandé, Mahmoud Abbas, on rappelle, c'est le président en Cisjordanie des Palestiniens, et il a demandé au président américain, il n'y a rien à voir avec le Hamas.
J'ai une question, Ben, excuse-moi de t'interrompre.
Oui, oui, vas-y.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ont à s'entretuer?
Israël, c'est pas compliqué. C'est un territoire qui, à l'origine, c'est pas compliqué. Il y a 120 ans, quelque chose comme ça, c'est un territoire où il y avait à peu près 10% d'Israéliens, puis 90% de Palestiniens. Pour toutes sortes de raisons, on a décidé de fonder là un État israélien.
Après la guerre.
On a pris les territoires à... Oh non, ça s'est fait. Ça a commencé avant la guerre. Et on a décidé vraiment de le faire. Parce que les Anglais faisaient ça. C'était eux qui étaient là. C'était une colonie anglaise. Ils divisaient pour régner, mais ils armaient les Israéliens. Et le nombre de la population israélienne a augmenté à 30%, 40%, etc. Et finalement, on a permis, étant donné les horreurs de l'Holocauste aussi, on a permis à Israël d'exister en 1947 après la guerre. Mais on a pris des territoires qui étaient des territoires palestiniens. Et les Palestiniens ont jamais voulu ça. Et Israël, ensuite, ils se sont fait attaquer, les Palestiniens et les Israéliens se sont fait la guerre. Israël a fait la guerre aux Palestiniens, ils ont pris des territoires, la bande de Gaza et la Cisjordanie, qui étaient palestiniens, les ont occupés, et en ce moment, le gouvernement israélien disloque complètement les territoires de Cisjordanie. Si tu regardes une carte, tu t'aperçois qu'ils mettent des colonies de juifs hassidiques là-dedans, qui sont fondamentalistes, puis ils défont tout. Alors, ils sont en train de détruire, de gruger petit à petit le territoire palestiniens. Et les Palestiniens qui habitent en Israël, même sur Israël même, ils ont beaucoup moins de droits que les Israéliens, donc ils sont très très mécontents. Rajoute à ça le fondamentalisme religieux qui se mêle dans les deux camps, puis c'est la recette parfaite pour une explosion. Ils auraient pu s'entendre. Il y a eu des chances, par exemple avec Pérez, pour qu'ils s'entendent, mais dans les deux, quand c'est arrivé, les extrémistes religieux, parce que les extrémistes juifs disent que tout Israël appartient, c'est le grand Israël, le Erat Israël, la grande terre d'Israël, puis t'as les extrémistes musulmans qui disent non, il faut les chasser, c'est un peuple impie, etc., puis ils veulent rien savoir non plus. Alors, de chaque côté, donc, t'as ces extrémistes-là qui empêchent toujours la conclusion d'une paix entre la vaste majorité des deux populations.
Ah, boy. Ça leur tente pas de s'entendre?
Il n'y a pas de solution.
Ça leur tente pas?
Il n'y a pas de solution.
Non,
il n'y a pas de solution.
Mais quand c'est tout de crinquer, là, tu sais, le négocier entre crinquer, c'est ça que ça donne. Tout le monde veut assassiner puis tuer l'autre.
Oui, oui, non. C'est très clair que les fondamentalistes religieux dans chaque camp pousse à l'extrême,
ouais.
Et ça marche pas du tout. Puis Netanyahou en ce moment est très content, lui, parce que il a pas été capable de former un gouvernement, mais c'est lui qui demeure le premier ministre tant qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement formé. T'as derrière ça donc Monsieur Yair Lapid, à qui le président israélien a demandé de former un gouvernement, qui a 28 jours pour le faire, il doit lui en rester à peu près 20. Puis lui, comment veux-tu qu'il forme un gouvernement quand t'as une guerre civile?
Ben ouais.
Tu peux pas négocier avec tes partenaires, etc. Surtout qu'il faut qu'il négocie avec des Arabes, avec des partis arabes, des partis extrémistes, etc. Donc Netanyahou est ravi, il garde le pouvoir, puis il va probablement finir par y avoir des élections. Dans quelques mois, puis il reste au pouvoir.
OK, parlons de cette lettre de 124 généraux américains.
Oui, tu sais, je t'avais parlé d'une lettre des généraux français, puis de hauts gradés, ouais. Et puis de militaires, bon, qui avaient signé en disant « En France, on est au bord de la guerre civile, etc. » Ben, ce lundi, il y a 124 généraux américains qui ont signé une lettre similaire. Puis, j'ouvre ici une parenthèse, aux États-Unis, il y a 231 généraux actifs, et un peu comme en France, il y en a beaucoup qui sont à la retraite, il y en aurait à peu près 4500, mais tu sais, on leur donne un grade de général pour qu'ils aient une meilleure retraite. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui étaient des généraux quand ils étaient dans l'armée active. Mais ils commencent leur lettre, donc, ces gens-là, en disant « Notre nation est dans une situation grave. » « A profound peril », dirait les « profound danger », disent dit la lettre, ou quelque chose comme ça. Et donc, les généraux mettent en cause la santé mentale et physique de Biden, c'est quand même le chef des armées, je te rappelle, demande à la Cour suprême et au FBI d'enquêter sur ce qu'ils estiment être un vol électoral par les démocrates. Tu sais, même s'il y a eu 55 cours de justice qui ont dit non, il n'y a pas eu de vol électoral, il n'y a pas eu de fraude électorale, c'est bien Biden qui a été élu, donc ils reprennent le grand mensonge de Trump. Mais ils continuent, ils mettent en garde contre l'Iran, ils sont pas du tout d'accord avec ça, ils ont très peur que l'Iran s'arme de manière nucléaire, ils mettent en garde contre la Chine qui, selon eux, est le pire ennemi des États-Unis, ils disent que les États-Unis sont engagés, imagine, dans un conflit interne entre des socialistes marxistes et des défenseurs des droits et libertés garantis par la Constitution, puis là tu dis, où ça, des socialistes marxistes aux États-Unis, puis là tu te rends compte que c'est en fait tout ce que les autres pays industrialisés ont, c'est-à-dire par exemple l'assurance maladie, que eux appellent du marxisme. Évidemment, ils rentrent donc pleinement dans tout le discours des républicains. Puis ils parlent aussi des woke, ils sont contre ça, bien entendu. Ils parlent d'un certain nombre d'autres choses qui sont intéressantes aussi. Mais le problème, c'est que ces gens-là, normalement, ils se taisent. Tu laisses pas, dans une démocratie, tes militaires s'exprimer. Mmh. Ils se sont déjà exprimés. Ils ont déjà appuyé Biden ou dénoncé Trump. Mais il y a un problème, parce que ça montre que tes militaires commencent à s'exprimer de plus en plus dans la place publique. C'est normal. Il y a autant de dissensions chez les militaires que dans le public en général. Mais on leur demande de s'affirmer pour rester neutre, pour rester au-dessus de tout ça. Et là, ils le font pas. Mmh. Et ça pose un vrai problème, parce que si tu veux, les gens qui sont contre cette opinion que je viens de te dire, et aux États-Unis, c'est à peu près 60% de la population, disent, mais de quoi ils se mêlent, les militaires? Et ils comprennent pas ce qui se passe. Et en effet, c'est pas parce que ils sont versés dans l'art militaire qu'ils comprennent nécessairement la politique, je te dirais, parce que je pense que dire que les élections ont été frauduleuses ou que il y a des marxistes et des socialistes qui essaient de prendre le pouvoir aux États-Unis, c'est complètement loufoque.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, tu comprends rien à la politique si tu penses ça. Mais ça discrédite l'armée, tout ça. Et ça montre que l'armée n'est pas unie. Et c'est pour ça que les militaires, en général, on leur dit, taisez-vous, faites vos affaires. Si vous voulez faire de la politique, démissionnez, puis tu sais, faites la politique par vous-même.
Présentez-vous, ouais, c'est ça.
Ben exactement, ouais. Exactement.
Parfait, on se laisse là-dessus. Loïc, merci, à demain.
Salut, à demain.